Nous allons courber nos têtes dans la prière. Éternel, merci pour ce temps que tu ne cesses de nous donner. Merci pour ta présence. Merci pour l'action de ton esprit. Et merci parce que tu nous aimes. Et quand tu aimes, tu envoies ta parole. Et ta parole guérit ton peuple. Guéris-nous par ta parole. Manifeste-toi dans nos vies. Seigneur, nous te désirons. Nous désirons ta parole. Nous voulons vivre ta parole. Nous voulons expérimenter ta parole. Je m'oppose contre toute attaque de l'ennemi maintenant, tout envoûtement, toute incrédulité. Je fais tomber ces barrières au nom de Jésus-Christ. Que le voile, que l'évangile ne soit pas voilé pour quelqu'un ici. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de passer par moi une fois de plus ce matin pour nous communiquer ta pensée. Au nom de Jésus, nous prions. Ensemble, nous disons Amen. Jésus est ma richesse. C'est ce thème que nous voulons dans quelques minutes partager, qui puisse nous accompagner aujourd'hui et dans la semaine. Jésus est ma richesse. La richesse. Amen. Quand on parle de richesse, les gens ouvrent les yeux grandement. Oh, la richesse. Jésus. Jésus est ma richesse. Et quand on parle à quelqu'un de Jésus, certains milieux ferment les yeux parce qu'ils trouvent qu'il n'y a rien d'intéressant. Et ils passent à côté de la vraie valeur. Ils passent à côté de l'essentiel. Jésus est ma richesse. Jésus, Yehoshua, l'Éternel, notre salut. Voilà la signification de ce nom-là. L'Éternel, notre salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Sous le soleil, il n'y a de salut en aucun autre nom. Si ce nom dans le nom de Jésus-Christ. Jésus est ma richesse. Jésus, ma richesse. L'Éternel, notre salut. La richesse est définie comme étant ce qui est important, c'est-à-dire ce qui a de la valeur. C'est cela la richesse. Ce qui a un intérêt très grand. C'est cela la richesse. Ça a un grand intérêt. Ce qui est considérable. Cela a un coût. Ça a un prix. Et un grand prix. C'est quelque chose dont le prix est élevé. L'on dira ça coûte cher. Jésus est ma richesse. Amen. Il a coûté cher. Jésus, c'est le bien le plus précieux de Dieu. C'est la valeur intrinsèque. Jésus, c'est la valeur ultime. Jésus, c'est le bien le plus précieux de Dieu. Quand Dieu te présente ses biens, ses richesses, au premier rang, c'est Jésus. Oh, amen, amen. Au premier rang, c'est Jésus. Jésus est le bien le plus précieux de Dieu. La richesse, c'est le caractère de ce qui est précieux, de ce qui est de grand prix, caractère de ce qui est de grande valeur. Jésus, ma richesse. La richesse, c'est ce qu'il y a de précieux. Et ce qui est précieux, bien-aimé dans le Seigneur, mérite une attention particulière. Ce qui est précieux, ça mérite une attention particulière. Quand vous avez un peu d'argent, vous avez fait un peu d'épargne, vous vous rendez compte, vous touchez $120, vous avez épargné jusqu'à $1,200, vous n'allez pas être distrait par rapport à votre épargne. Surtout à l'époque où dans notre pays, les banques ne fonctionnaient plus, chacun gardait son argent. Et j'ai comme l'impression que dans la journée, tu pouvais vérifier 10 fois chaque jour, si cet argent est toujours en place, oui ou non? Pourquoi? Parce que c'est précieux. Parce que c'est ta richesse. Tout ton intérêt est là-bas. On ne blague pas avec sa richesse. On ne blague pas avec ce qui est précieux. On ne blague pas avec. Tu as tout le temps le regard là-bas. Je me souviens, en les années 89, 90, 90, 91, alors que je suis en train de travailler au Parlement, je faisais mes épargnes et j'ai gardé mon argent là dans la chambre où nous vivions à la borne et dans ce petit coffret là. Chaque jour, je vérifiais si mon argent était là. Je vous assure, je vais être sincère, chaque jour, je pouvais compter deux fois la journée, je compte l'argent. C'est ainsi que je me suis rendu compte un jour que j'avais perdu de l'argent. Ah oui, ça arrive. Les gens vous suivent, vous vivez à l'église, les gens vous suivent, quelquefois vous donnez à X, prend la clé de notre chambre, quelqu'un qui ne vit pas à l'église, qui va là-bas et tout le temps, et le sait. Et puis un jour, sur le trousseau, j'avais oublié que sur le même trousseau, il y avait aussi la clé de ce coffret-là. Heureusement, il était gentil, il a pris que 200 $. Je compte comme ça, je dis, je fais un rêve quoi? Est-ce que je compte, il y a manque de 200. Je compte encore, manque de 200. Oh, est-ce que je rêve ou quoi? C'était vrai, manque de 200. Mais je l'ai su pourquoi? Parce que chaque jour, j'ai vérifié, c'était précieux. Oh, amen, amen. La richesse, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et je disais que ce qui est précieux mérite une attention particulière. Une attention particulière. Une attention particulière à ce qui est précieux. L'on réserve un traitement différent. Tout ton cœur, tout ton attachement sera tourné vers cela. Et Matthieu 6, 21 déclare que « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Oh, amen, amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parce que c'est un trésor. On ne blague pas avec le trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Autrement dit, c'est à quoi est attaché ton cœur. Voilà ce qui constitue ton trésor. Voilà ce qui constitue ta richesse. C'est à quoi est tourné, est attaché ton cœur. Vers le quoi est tourné ton cœur. Là où est tourné ton cœur, c'est là que se trouve ta richesse. Ton cœur est constamment tourné vers quoi? Tu peux vite comprendre que c'est ceci est précieux pour moi. C'est ceci qui est ma richesse. Quelle est ta richesse? Qu'est-ce qui constitue ta richesse? Philippiens 3. J'aimerais que nous lisions ensemble. Philippiens 3, chapitre 3, versets 7 à 8. C'est Paul qui est en train de parler. Je préfère même, pour une meilleure compréhension, commencer la lecture au premier verset. Philippiens chapitre 3. Paul dit, « Je ne me lasse point de vous écrire la même chose, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. » Ah, prenez garde à qui? Aux mauvais ouvriers. Oh, je suis appelé à prendre garde aux mauvais ouvriers. C'est l'exhortation de mon aîné Paul. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Nous ne mettons point notre confiance en la chair. Nous sommes les circoncis. Nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Nous nous glorifions en Jésus-Christ. C'est là que nous trouvons toute notre gloire. Oh, amen, amen. Kalamba a chanté en disant que mais en Chuluba, les femmes, c'est Batumbi la Mbaba Yabu. Donc, elles sont en train de se glorifier dans les chefs de leur mari. Mon mari est capable. Mais nous nous glorifions en Jésus-Christ. Oh, amen, amen. Il y avait un pagne autrefois, il y a plusieurs années en arrière, le temps de nos parents, qu'on appelait mon mari est capable. C'est-à-dire que quand on te voit porter ces pagnes-là, on dit, mon mari n'est pas capable. J'ai encore des maris capables aujourd'hui. Je suivais sur RFI hier, et donc un reportage sur le Congo, les femmes au Congo, comment elles travaillent, elles parlaient, les femmes maraîchères. Et dit, aujourd'hui, de nos jours, oh non, c'est nous qui apportons à manger à la maison. Assez régulièrement, c'est la femme. Où sont encore les maris capables? Qui relèvent encore la tête? Non, il n'y a pas de capables. Dieu seul est capable. Jésus-Christ est capable. Le seul qui soit capable, c'est lui. Oh, amen, amen. Alléluia. Et Paul dit, nous nous glorifions en Jésus-Christ. Nous ne mettons point notre confiance à la chair, non. C'est en Christ que nous nous glorifions. Moi aussi, verset 4, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, si Paul parle de lui, moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël. Moi, je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Il dit, je suis hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, écoutez la suite. Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme quoi? Comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour le Seigneur, mon Seigneur, j'ai renoncé à tout. Alléluia. J'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tout ce que je pensais être une richesse, pour moi, ce n'est plus richesse. Jésus seul est resté ma seule richesse, la vraie, la solide, la durable. Jésus est ma richesse. Oh, amen, amen. Le reste, les pagnes, les costumes, les comptes en banque, que sais-je encore, mon rang de juif, parce qu'il était juif, il était fier, je suis hébreu, né d'hébreu. Il dit toutes ces choses, je me vantais à cause de cela, j'allais persécuter les gens, je pensais que j'étais zélé. Il dit, même ces zèles-là, je les jetais à la poubelle à cause de la connaissance de Jésus-Christ. Dès le jour où je l'ai connu, le voile est tombé de mes yeux. Tout ce que je pensais être valeur n'est plus valeur pour moi parce que Jésus-Christ les a tous écrasés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, autrefois par méconnaissance, par ignorance, je pensais que c'était des gains. Il dit, désormais, je le regarde comme une perte à cause de Christ. Une perte à cause de Christ. Gagner le Christ. Amen. Gagner le Christ est pour Paul l'essentiel. C'est pourquoi il établit un bilan des gains et des pertes. À la lumière et à la lumière de la révélation qu'il reçoit, il va en renverser leur position. Il renverse leur position. Avant, c'était ces mauvaises choses-là qui étaient des gains pour lui. Et ce qui avait de la valeur, il les avait écrasés. Désormais, il a renversé la position. Ce qui était gain ne l'est plus. Paul, le pharisien irréprochable, a vécu un réel bouleversement dans sa vie. Et son seul désir désormais est de connaître le Christ et la vie véritable. Jésus est la vie véritable. Amen, amen. Jésus est la vie véritable. La vraie vie, bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas. La vraie vie, c'est Christ. Vivre pour lui. Vivre pour le célébrer. Vivre pour l'adorer. Vivre pour l'honorer. Vivre pour témoigner de lui, c'est cela la vraie vie. Toute autre chose ne peut se comparer, s'égaler à cette vie-là. Matthieu 13, 44 nous dit que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Pourquoi? Alors que tout le monde ne comprend pas ce qu'il y a dans les champs. Dans les champs, ce n'est pas seulement à cause du champ qu'il achète, c'est à cause du trésor qu'il y a dans les champs. Oh, amen, amen. C'est à cause du trésor qu'il y a dans les champs. Vous savez, quelqu'un peut vendre son champ à vil prix parce que n'ayant pas compris ce qu'il y a à l'intérieur, il n'a pas scruté, il n'a pas sondé son sol, son terrain, et il va le vendre à vil prix. Mais celui qui est en train d'acheter, lui, a déjà découvert ce qu'il y a dans les champs. Il sait qu'il y a un trésor. Alléluia. Il sait qu'il y a un trésor. Il y a des gens qui font les bilanga, passez-moi l'expression. Ils sont téméraires. Vous pensez que c'est... Non, il est tellement accro à son champ. Non. En fait, il camoufle pour que les gens ne sachent pas que dans les sous-sols, il y a autre chose. Jusqu'au jour où il va l'exploiter. Lui, il sait ce qu'il y a au-delà de ces champs, au-delà de ces plantes que vous voyez. Il sait qu'il y a autre chose. Et là, voilà quelqu'un qui a vu un champ et qui allait tout vendre, tout ce qu'il avait. Il a considéré comme si tout ce qu'il avait là, c'était du néant, c'était de la pourriture. Je peux perdre tout ce que j'ai pourvu que je puisse acheter ces champs-là. Pourquoi? Il savait que ce qu'il y a dans les champs vaut plus que ce que je suis en train de perdre maintenant. Et Jésus est le meilleur des trésors. Paul dit que nous sommes des vases de terre, des Corinthiens. Nous sommes des vases de terre. Mais, Paul dit, dans ces vases de terre habite un trésor. Alléluia. Les gens peuvent n'avoir aucune considération de ta personne. C'est parce qu'ils ignorent le trésor qui est en toi. Tu es comme un champ, mais qui a un trésor. Jésus est en toi. Paul dit, nous avons, mais en nous habite un trésor. Jésus est ce trésor qui est venu en nous. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux ne pas sembler être quelque chose pour ceux qui t'entourent. Ils te méprisent. Quand ils te regardent, ils te disent, ils disent qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est caché en toi. Jésus, c'est le bien le plus précieux de Dieu. Et quand il est en toi, tu as la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. La vraie vie, c'est quand on est avec Christ. La vraie vie. La vraie vie. Et quelquefois, même si ce trésor tardait à produire pour toi, tôt ou tard, les gens verront que tu avais un trésor. Tôt ou tard, les gens verront que tu avais un trésor. Ce trésor nous apporte tout. En commençant par le salut. Nous sommes sauvés. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des enfants du dehors. Nous sommes devenus des enfants de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons de la valeur. Nous avons été pardonnés. Nos péchés ont été lavés par le sang de ce trésor. Nos péchés ont été lavés. Bien-aimés, est-ce que vous avez réalisé combien c'est merveilleux que de vivre en étant pardonné de Dieu? Être pardonné. As-tu connu le fardeau du péché? As-tu connu le poids du péché et que maintenant tu sens que tu es léger? Si tu es léger aujourd'hui, si tu avais connu le poids du péché et qu'aujourd'hui tu expérimentes le fait d'être léger, sache que le sang du trésor est passé par là. Le sang du trésor. Jésus est un trésor. Jésus est une richesse. Oh, amen, amen. Il a transformé toute ma vie. Toute ma vie a été transformée. Jésus, le trésor peut réjouir ton cœur. Une fois que tu l'as reçu, bien-aimé dans le Seigneur, même quelquefois où tu devrais être troublé, le trésor te calme, te tranquillise. Jésus est ma richesse. Hier soir, j'ai reçu une nouvelle. Quand je suis parti d'ici, j'ai reçu une nouvelle qui est tombée sur moi comme un coup de massue. Ah, j'étais brisé. Je ne pouvais plus continuer à parler au téléphone. J'ai dit à mon interlocuteur que non, il faut qu'on arrête. On en parlera plus tard. Je suis resté seul dans mon salon. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, tu me connais. Tu m'appelles par mon nom. Depuis le jour où tu as reçu le trésor, Dieu t'appelle par ton nom. Dieu dit qu'il t'aime. Tu as de la valeur à ses yeux. Vous savez, quand quelque chose nous arrive, Dieu le savait avant. Dieu est au courant. Nous avons l'impression de lui informer. Nous ne l'informons pas au Seigneur. Il connaît. Et puisqu'il te connaît aussi, il dira au septentrion, donne. Midi ne retient point. Bien-aimé, le trésor, Jésus-Christ est notre richesse. Je parle à quelqu'un. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Il va vendre quoi? Tout ce qu'il a. Car il vise les trésors dans les champs. Il va vendre tout ce qu'il a. Il préfère acquérir, posséder les trésors au détriment de tout ce qu'il avait. Au détriment de tout ce qu'il avait. Ce qui l'intéresse, c'est les trésors. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi? Ce qui l'intéresse, c'est les trésors. Voilà sa richesse. Ce qui l'intéresse, c'est les trésors. Ces choses qui étaient pour moi des gains, dit Paul, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. À cause de Christ. Si tu continues à regarder ces choses qui devraient être des pertes pour toi aujourd'hui, tu continues à les regarder avec valeur, c'est que Christ ne signifie pas grand-chose pour toi. Christ ne signifie pas grand-chose pour toi. C'est ainsi que tu es encore attaché aux choses viles qui t'avilissent, qui te ridiculisent, qui te diminuent. Tu continues à t'attacher à ces choses. J'étais en train de partager avec un frère vendredi. Il me disait que depuis que j'ai participé à la retraite de la jeunesse, l'année passée, il dit, je suis sorti de la retraite. Et c'était la première fois, je crois, qu'il venait à l'église avec la retraite. Je suis sorti de la retraite, j'ai cessé de fumer. Je ne comprends pas. J'ai abandonné la cigarette, comme ça. Mais j'ai diminué la consommation de l'alcool. Je dis, oh, tu n'as pas abandonné, tu as diminué. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Gloire à Dieu pour la victoire sur la cigarette. Mais qu'est-ce qui fait que tu... Non, ça, tu devrais donc te séparer totalement. Et quand j'analyse les choses avec lui, j'ai réalisé qu'il y a un problème de croissance. Il vient de temps en temps à l'église, mais il n'y a pas une croissance spirituelle valable. C'est ainsi qu'il ne comprenait pas. Quand je commence à analyser les choses avec lui, je voyais comme si c'était les écailles qui tombaient de ses yeux. Vous savez quand on dit, s'il y a encore des choses qui ont encore de la place, de la valeur dans ton cœur, pose-toi la question, quel est le niveau de Christ en toi? Christ, c'est un petit garçon, un bout d'homme comme ça, ou bien il a rempli tout ton entier, tout ton être? Je peux être là et Christ est à ce niveau ici. Christ, quelle est ta relation avec lui? Amen, amen. Quelle est ta relation avec Christ? Paul dit, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence. Vous entendez ça? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. C'est pour mon Seigneur que j'ai renoncé à tout. Je peux faire comme tout le monde. Tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Je vais prendre ce qui m'édifie. Oh, alléluia. Je ne suis pas messie tout le monde. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis chrétien. Je me suis engagé avec Jésus-Christ. Je lui ai dit que je lui ai donné ma vie. Comment est-ce que je peux commencer à lui donner une partie et donner une autre partie à quelqu'un d'autre? Non! Je lui ai donné toute ma vie. Toute ma vie est à lui. Oh, alléluia! Nous désirons de recevoir beaucoup de choses de la part de Dieu, mais nous lui donnons peu de notre vie, très peu de notre vie. La seule richesse de Paul désormais est celle de connaître le Christ et la vie véritable. Rien de ce qui faisait sa fierté auparavant n'est comparable à Christ Jésus, le don gratuit de Dieu. Amen, amen. Jésus est le don gratuit de Dieu. Qu'est-ce qui monopolise toute ton attention? Qu'est-ce qui monopolise toute ton attention? Tu es encore au niveau où tu discutes avec des péchés. Non, est-ce que ça c'est grave? Mais est-ce que ça c'est... Est-ce que Dieu... Est-ce que vous entendez les gens? Dites-moi où est-ce que c'est écrit qu'il ne faut pas prendre l'alcool? Où est-ce que c'est écrit qu'il ne faut pas fumer? Est-ce que c'est écrit aussi qu'il faut pas prendre les poisons? Mais tu veux prendre les poisons? Hein? Montre-moi où c'est écrit qu'il ne faut pas prendre le poison. Mais tu es intelligent. Poison. Mais tu oublies que la cigarette est un poison. Dieu dit que celui qui détruira ce temple, je le détruirai. Et toi, tu es le temple de Dieu. Oh, amen, amen. Quand tu consommes toutes ces choses, c'est pour consolider les temples? Ou bien c'est pour les détruire. Vous savez, il y a des gens, quand on leur parle comme ça, les pasteurs parlent comme ça, ils disent, non, où est-ce que c'est écrit? Maintenant, vous pouvez vous rendre compte, je vous retourne la balle. Vous entrez chez moi sans que je ne sache que vous étiez en train, vous me trouvez en train de prendre de l'alcool. Vous dites quoi? Soyons sincères, vous me trouvez avec un verre d'alcool dans ma main. Vous dites quoi? Soyez sincères. Ouais? Hein? Nayo? Et pourquoi c'est moi, toi et pas moi? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un? Jésus doit être notre richesse. Dans Matthieu 16, 26, il est écrit, que servait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'un homme donnerait en échange de son âme? Qu'est-ce que tu peux donner en échange de ton âme? Que servait-il à un homme de gagner tout le monde? Vous connaissez l'attitude du jeune homme riche dans Marc 10, 17 à 22? Qui vient dire à Jésus, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux, n'est-ce pas? Va vendre tous tes biens. Non, d'abord, dit, tu connais les commandements, mets-les en pratique. Oh, mais c'est tout ce que j'ai fait depuis ma tendre enfance. C'est comme s'il attendait que Jésus-Christ lui dise, bon, tiens, toi, tu as déjà ton diplôme pour aller au ciel. Jésus dit, il te manque une chose. Va vendre tous tes biens et fais quoi? Suis-moi. Vends tout tes biens. Donne les produits de vente aux pauvres et suis-moi. Wow. La Bible déclare que ce jeune homme est parti de là tout triste. Tout triste. Il n'est plus rentré. Il n'a pas su se séparer de ses biens. Donc, Jésus ne valait pas grand chose pour lui. Ce sont ses richesses, ce qu'il avait comme bien, qui était son trésor. Il est parti pour ne plus revenir. Il s'est moqué de Jésus. Il dit, ce monsieur n'est pas intelligent. Moi, je vais vendre tous mes biens et le suivre. Quand je le suivrai, moi, je vais rester avec quoi? Il me demande simplement, autre alternative qu'il me propose, c'est seulement le suivre. Tel qu'il est là, avec sa robe là, il a toujours la même tunique. Et quelquefois, on m'a raconté que non, il avait dit à quelqu'un que le fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête. Et moi, je vais le suivre. Mais il est jaloux de ma richesse ou quoi? Jésus, être jaloux de ta richesse, c'est à lui que tout appartient. C'est à lui tout appartient.
Oh, amen, amen.
Mais Pierre est venu, il prend la parole aussi. Il dit, Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Pendant qu'il y a des gens qui ont des difficultés pour tout quitter, il y en a quand même qui ont tout quitté. Ah, il y en a ici dans cette salle qui ont accepté de tout quitter. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Amen, amen. Il y en a qui ont accepté de tout quitter. Pierre dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, ayant quitté pas pour des futilités, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison. Non, pas quelqu'un qui a quitté sa maison pour une autre femme. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire ici. Il revient chez lui vers 2 heures du matin, sur le point de pied. Il fait trembler tout le monde. C'est ma maison! Tu dois ouvrir quand je viens. C'est la femme là qui dort, qui doit rester tranquillement en train de dormir pour pouvoir se réveiller, bénir Dieu et s'occuper de sa maison. Il dit, à n'importe quelle heure de la nuit, j'arrive, tu dois ouvrir. C'est ma maison. Ta maison. Tu n'as pas honte. Si tu es propriétaire de la maison, tu dois la garder. C'est-à-dire qu'aux heures où on doit dormir, tu dois être là. C'est ma maison. Est-ce que je suis le premier? Mon père a eu des femmes. Ton papa, c'est un modèle. Tu cites ton papa qui a eu des femmes. Mais tu devrais te cacher. Ayant quitté, Jésus est en train de parler, dit, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Quitter sa maison à cause de Jésus. Amen. À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alléluia. Oh, alléluia. Tranquillise-toi. Dieu s'occupe aussi de ta vie ici-bas avant de s'en aller avec toi au ciel. Ta vie ne restera pas toujours comme elle est là aujourd'hui. T'en fais pas. Ta vie n'est pas faite seulement d'aujourd'hui avec ses déboires, avec ses difficultés, avec ses incompréhensions. Non, il y a aussi cet autre paire de manches de la vie. Dieu te réserve aussi des surprises agréables. Je parle à quelqu'un. Mais Jésus est-il devenu ta richesse? C'est cela la question. Jésus est-il devenu ta richesse? 1 Timothée 6, 17 dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec, comment? Abondance, toutes choses pour que nous en jouissions. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Quelqu'un dit amen. C'est Dieu qui donne tout. Alors Jésus doit être notre première valeur, doit être notre richesse. Dans Psaume 37, verset 4, il est écrit que « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices. Vous savez, on parle de délices. Délices signifie plaisir, satisfaction, jouissance. Plaisir, donc le délice, c'est un plaisir, c'est une satisfaction, c'est une jouissance. Fais de l'Éternel ta jouissance. Fais de l'Éternel ton plaisir. Fais de l'Éternel ta haute satisfaction. Oh, amen, amen. Fais de l'Éternel ton plus grand plaisir, ton entière satisfaction, ta seule jouissance, et il te donnera ce que ton cœur désire. Quelqu'un dit amen. Puisse Jésus, mon frère, ma sœur, puisse Jésus être ta richesse. Puisse Jésus être ta seule vraie richesse. Et toutes les autres choses te seront données par-dessus. Oh, alléluia. Toutes les autres choses te seront données par-dessus. Dans Romains 8, 32, d'ailleurs, il dit que lui, Dieu qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Lui qui est le fils. Si Dieu t'a donné le fils, il n'y a rien qui ne puisse te priver. Je parle à quelqu'un? Si Dieu t'a donné le fils, il n'y a rien qui ne puisse te priver. Une fois que tu as gagné le fils, alors le reste devient possible. Mais gagne d'abord le bien le plus précieux de Dieu. Dieu n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment? La question est posée. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ne t'en fais pas pour le mariage. Amen, amen. Ne t'en fais pas pour l'enfant. Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Si tu as gagné les biens les plus précieux, alors Isaac, je te le donnerai. Isaac n'est-il pas venu dans la vie d'Abraham? Si Isaac est venu dans la vie d'un homme de 100 ans, alors tu auras ce que tu as besoin. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Alors tu l'auras. Mais seulement Jésus est-il ton bien le plus précieux? Est-il devenu ta richesse? Jésus, alléluia. La richesse, c'est tout ce qui est susceptible de combler, de satisfaire les désirs, de combler les besoins de l'homme. La richesse. Et Jésus seul peut combler. La vraie richesse, c'est Jésus. Les autres choses ne peuvent pas forcément combler. Jésus disait à cette femme de Jean 4 en disant que celui qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui coulera jusque dans la vie éternelle. Amen, amen. C'est-à-dire que cette eau va t'accompagner, va continuer à étancher ta soif jusqu'à ce que tu entres dans les appartements de Dieu. Oh, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Alléluia. Je ne peux pas continuer. Avoir Christ, c'est cela le plus grand bien. Il est plus que toutes les richesses de ce monde. Amen. Laissez-moi quand même finir avec ces chants. Quelqu'un a écrit et a chanté ces paroles en disant « J'aime mieux avoir Christ qu'un or fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée que d'être un grand roi vêtu de fin lin, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que le plus grand bien que le monde offre aujourd'hui. » Il poursuit en disant, « J'aime mieux avoir Christ que d'être arrivé au sommet de la gloire. » La gloire selon le monde. Au sommet de la célébrité, il ajoute en disant, « J'aime mieux qu'il dispose de tous mes talents. » J'aime mieux que Jésus dispose de tous mes talents. Mon Jésus est plus noble que les lys royal. Cet homme a poursuivi dans son chant. Quelqu'un dit amen. Amen. Jésus est-il devenu ta richesse? La vraie. La vraie. Où est-ce que ton cœur est partagé? Ton cœur est en dents de scie. Aucun ne peut servir deux maîtres. Aucun. Amen, amen. Tu désires suivre Jésus, mais tu désires suivre aussi le monde. C'est pas compatible. Nous courbons nos têtes dans la prière. Dieu a-t-il parlé au cœur de quelqu'un?
Jusqu'à quand continueras-tu à donner le dos à la parole? Jusqu'à quand continueras-tu à négocier ou à discuter avec la parole? Pourquoi ne pas s'engager à honorer Dieu toute sa vie jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher? Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre une décision suite à cette parole? Je ne sais pas quel est l'aspect qui t'a touché, mais tu sens qu'il faut que tu prennes une décision. Tiens-toi debout. Nous allons prier pour toi et avec toi et nous allons clôturer ce culte. Dieu te bénisse. Merci pour vous tous qui vous levez ce matin. Dieu, Jésus-Christ est-il devenu ta richesse? À toi de prendre une décision. Ne regarde pas celui qui est à ta gauche et à ta droite. Tu vas louper l'essentiel à cause du voisin. Dis-toi, je m'en fous de mon voisin. Je vais me mettre en ordre avec mon roi. Peux-tu te lever là où tu es? Tu peux t'en foutre de ton titre de responsabilité dans la maison de Dieu et mettre ta vie en ordre avec le Seigneur. Nous continuons à t'attendre, toi qui hésites encore, lève-toi là où tu es. Nous voulons prier pour toi et avec toi. Merci ma sœur. Au bâtiment administratif, à l'extérieur, de partout là où vous êtes, tenez-vous debout, nous voulons prier pour vous et avec vous. Prenez soin de venir rencontrer les serviteurs de Dieu. Déjà même, pourquoi pas, à la fin de ces cultes, là au bâtiment administratif, quelques responsables seront là. Parlez avec. Priez avec, afin que vous marchiez sur la nouveauté de vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'apporte ces bien-aimés. Je prie pour que tu puisses, Seigneur, les accueillir, les agréer devant toi. Je prie pour que tu leur accordes non seulement le pardon, mais aussi les accorder la capacité, Seigneur, de rebrousser chemin, de faire demi-tour. Je te prie de les aider désormais à s'accrocher et à s'attacher à la parole et à vivre la parole. Aide-les, soutiens-les, Seigneur. Toi seul es capable de le faire, pas moi. Le Saint-Esprit est capable de le faire, pas moi. Donne-leur d'être debout et de t'avoir comme la seule richesse de leur vie. Dieu soit béni. Que la faveur de Dieu puisse nous accompagner tous tout au long de cette semaine et que Dieu nous ramène mercredi, jeudi et vendredi pour ce temps de rafraîchissement. Soyez bénis de Dieu. Que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient les partages de chacun d'entre vous. Allons en paix. Et bon dimanche à tout le monde. Dieu vous bénisse.
Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais fait des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. Mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. Mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent.